Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup au pasteur Jean-Paul Zurcher pour cette présidence et toute l'équipe de louanges techniques. C'était un temps d'introduction à ce message sur donc la suite de la première lettre de l'apôtre Pierre. Et nous allons donc lire le chapitre 2, versets 4 à 10. Donc 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu le Père, sous-entendu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture, et nous l'avons entendu pendant le temps de louange, c'est la référence donc à un psaume de David, 119. J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en Sion, c'est-à-dire en Jérusalem. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Ce passage très beau, très riche et très dense, ressemble comme toute la parole de Dieu selon les juifs à un diamant à plusieurs facettes. Et il faudrait des jours et des jours, des semaines et des mois pour sans cesse le méditer. Je ne pense pas qu'on puisse, si ça n'a pas été le cas depuis les millénaires, arriver au bout de la méditation et de ce que l'Esprit-Saint peut montrer sur la gloire de tout ce que ce passage dit. Donc ce matin, nous verrons seulement quelques facettes de ce diamant. Une première chose que l'on voit dans ce passage, c'est ce qu'il dit sur Jésus, premièrement, et puis nous verrons tout ce qu'il dit à nous, êtres humains. Ce qu'il dit sur Jésus, on l'a vu au verset 4 et aussi au verset 6. Ça dépend des traductions, mais il dit que Jésus-Christ est la pierre vivante qui est devant le Père céleste, devant Dieu. On a deux fois cette notion que Jésus-Christ est choisi et précieux, verset 4 et verset 6. Je ne pourrais pas développer en réalité, comme je l'ai dit, avec tout ce qu'il y a dans ce passage, versets 4 à 10. Et je trouve que la prédication que nous avons eue dimanche dernier, qui faisait référence à Apocalypse chapitre 5, où il est dit qu'on cherche, on cherche, on cherche dans tout l'univers, sur la terre, sous la mer, partout, dans le monde spirituel, dans le monde terrestre, on cherche qui va pouvoir ouvrir les sceaux du livre de vie. Et on ne trouve personne. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un diamantaire qui cherche la pierre précieuse. Et les diamants, quand on doit les offrir au roi de ce monde, ils doivent avoir plein de caractéristiques. Et dimanche dernier, on a vu quelques-unes de ces caractéristiques. Quand on parle, on l'a mentionné tout à l'heure, de pierre angulaire, c'est vraiment la notion de solidité de cette pierre, qui est d'ailleurs la notion même du diamant aussi. C'est-à-dire que Jésus-Christ, de tout l'univers, de tous les dignitaires, de tous les gens puissants que l'on puisse trouver, de tous les mentors que l'on puisse trouver dans ce monde, Jésus-Christ est le seul fiable, le seul solide. Et à deux reprises, il est dit, c'est lui et lui seul que Dieu a choisi. Il est là, sous nos yeux, et parfois, on passe à côté. Il est celui qui est capable, nous l'avons chanté et dit encore pendant le temps de louange, celui qui est capable de nous soutenir, celui qui ne fera pas défaut. C'est pour cela que le Père l'a choisi. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit défaillant. Face aux adversités, face aux tempêtes, face aux épreuves de la vie, face à toutes les tentations les plus subtiles et les plus terribles qu'il puisse y avoir, Dieu a voulu qu'il y ait une pierre solide qui tienne bon coûte que coûte. Il n'y a que Christ qui puisse nous soutenir de cette façon-là. Au centre, au sens figuré, la notion de pierre angulaire ou pierre d'angle, c'est aussi la personne autour de qui tout gravite. Et ça avait été dit dans la prière encore dimanche dernier, dans le temps de louange, que Jésus, il est le centre. Et nous voulons qu'il soit le centre de nos pensées, le centre de nos actions, le centre de nos vies, le centre de nos décisions. Il y a une grande bénédiction à faire de Dieu le centre de tout. Donc voilà ce que Christ doit être pour chacun, chacune d'entre nous, et aussi pour nous en tant qu'assemblée. On le verra, ce passage parle des questions d'individus, mais aussi de la question du collectif, de la communauté. Ce qu'il est dit aussi dans ce passage, au verset 4 à 10, et en particulier au verset 4 et 7, de la même façon que deux fois il est écrit que Jésus est précieux, qu'il est choisi, il est aussi dit deux fois qu'il est rejeté par les humains. Donc on a vraiment une tension entre ce que Dieu accomplit, ce que Dieu bâtit, et ce que les humains élaborent. Et eux, ils jugent que Jésus n'est pas digne. Et c'est vraiment important cette notion du rejet, parce qu'il y a deux thèmes au moins, voire trois, dans toute la première épître de l'apôtre Pierre. C'est la notion de la persécution et la question de, malgré tout, annoncer l'évangile. Donc l'apôtre Pierre écrit cette lettre dans un contexte où l'Église, peut-être pas partout, même à l'époque où il écrit, peut-être pas tous les chrétiens, mais l'Église est bien souvent confrontée à l'hostilité par rapport au message de l'Évangile. D'abord, ça a été de la part des Juifs, mais au fur et à mesure, je crois qu'il y a une telle indifférence, hélas, des Juifs à cette époque-là, par rapport au message de l'Évangile, que de moins en moins de Juifs venant à Christ, il y a de moins en moins de persécutions de la part des Juifs. Mais les chrétiens se répandent dans l'Empire et l'hostilité va devenir de plus en plus, cette fois-ci, des païens. Et in fine, carrément devenir institutionnel et venir de l'Empire romain lui-même. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul veut nous dire, vous êtes peut-être rejetés. Vous êtes peut-être méprisé, vous faites peut-être face au dédain, face aux épreuves. Mais Christ est passé par là avant vous. Et il a affronté bien plus que ce qu'aucun être humain ne pourra avoir à endurer. Donc lui, il sait comment en sortir. Et il est la force, la seule force qui nous permet de prendre le dessus. Il y a au verset 5 la notion que nous devons offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus, pas par nos propres vertus, pas par même le peu de foi, le peu d'amour, le peu de sainteté peut-être, le peu d'abstinence, que sais-je, que nous pouvons avoir à offrir, mais c'est par Jésus-Christ que nous pouvons offrir des sacrifices spirituels. Je ne vais pas, là encore, je suis désolée, développer, parce qu'il y a encore bien d'autres points que je préférerais aborder. Mais je dirais que je vous donne un indice au moins dans votre méditation personnelle. Le fait que renoncer, alors vous mettez ce que vous avez à mettre après. Le fait de liberté. Toute personne qui n'est pas capable de renoncer, en réalité, n'est pas libre. Premièrement. Et deuxièmement, c'est une clé pour être fortifié et pour être béni. C'est un tremplin. Hélas, trop peu d'entre nous, ou trop peu souvent, on est prêt à aller là. Mais c'est un tremplin extraordinaire pour recevoir ce que Dieu veut nous offrir. Et tant qu'on n'y va pas, on ne saura pas ce que Dieu a à nous offrir. Quel est le message que l'apôtre Pierre adresse aux humains en dehors de cette notion de sacrifice? Il y en a un aux non-croyants. Il y en a un aux croyants. Il s'adresse aussi aux non-croyants, ou en tout cas, il les mentionne à ceux qui croient avec un avertissement. Au verset 7 et 8, il rappelle donc, je lis, que cette pierre, donc Jésus-Christ, est d'une grande valeur pour vous les croyants, mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché parce que ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Je dirais juste deux éléments sur ce passage. D'abord, quand Jésus avait dit déjà qu'effectivement, prenez garde, il parlait aux religieux notamment, prenez garde que vous ne tombiez pas sur cette pierre, la pierre principale, prenez garde qu'elle ne tombe sur vous. Et j'ai tenté de comprendre, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le fait de trébucher sur la pierre ou qu'elle tombe sur nous? Cette notion de qu'elle puisse tomber sur nous n'apparaît pas ici, et donc dans le psaume auquel Pierre fait référence. Mais je pense que dans tous les cas, c'est une question d'orgueil spirituel. Si vous tombez sur quelque chose, ça veut dire que vous vous êtes mis au-dessus de cette chose. Et ça, Dieu le refuse. Et personne ne pourra l'obliger à accepter, qu'on se mette au-dessus de lui. Là encore, je vous invite à réécouter le message de dimanche dernier. Dieu ne le permettra pas. Et s'il tombe sur nous, sur tout être humain, il doit savoir qu'il s'est placé à la place de Dieu. Il s'est positionné là où c'est le trône de Dieu. Et notre frère l'a partagé dimanche dernier, Dieu est le seul juge. Donc quand nous nous jugeons les uns les autres, au lieu de nous aimer les uns les autres, quand il n'y a pas de pardon, nous nous mettons à la place de Dieu, Dieu le refusera. Il le refuse. Il n'y en a qu'un seul qui puisse véritablement juger de manière juste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il décide, si on est repentant, si on fait appel à Christ, de pardonner. Je crois que tout ce passage qui fait souvent écho à ce qui était institué dans l'Ancien Testament, cette notion de temple sur laquelle on va un peu revenir, on a vu, voilà, vous, les religieux juifs, vous baptisez, mais ce sont des choses faites de main d'hommes qui étaient données par Dieu sur le modèle céleste, mais maintenant il est temps de rendre la place à Dieu. Et vous savez que le peuple d'Israël avait demandé un Dieu, un roi. Et Dieu avait dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, comme roi. Et Dieu ne règne nulle part ailleurs que dans le temple. Dans le monde humain, on est obligé de séparer les pouvoirs parce que nous sommes des gens qui abusons de nos pouvoirs. Mais Dieu, lui, n'abuse jamais de son pouvoir. Il n'a pas besoin de séparer pouvoir gouvernemental, décisionnaire, du pouvoir religieux et du pouvoir militaire. Là où Dieu règne, c'est dans son temple. Et il règne, il a choisi, voilà, de vivre en nous. Et parce qu'il est en nous, il règne. Et l'objectif, c'est que nous le laissions régner de plus en plus dans tous les domaines de notre vie. Laissons Dieu reprendre toute sa place. Rendons-lui l'honneur qui lui est dû. C'est ce que l'on voit au verset 7. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Qu'en est-il du message spécifiquement à l'Église ? Je voudrais préciser aussi une chose, c'est que avant de passer aux croyants, la notion de « c'est à ceux-là qu'ils sont destinés », Dieu souhaite-t-il que des êtres humains soient destinés à la perdition ? On peut se poser la question. Ça semble étrange quand on connaît le cœur de Dieu de voir une chose pareille, mais on a bien vu que ce sont les humains qui choisissent de refuser d'obéir à la parole de Dieu. Par leur décision, ils ont une destinée. À partir du moment où l'on décide de changer de direction, ce qu'on appelle la conversion, la destinée change. Je vais développer ça donc sur la question du message à l'Église. D'abord, dans ce contexte, comme je l'ai dit, de persécution ou d'épreuve, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui forcément persécutés comme ça peut l'être par 300 millions de chrétiens sur la terre en 2021, mais nous avons des épreuves. L'apôtre Pierre nous dit, la première clé, c'est de vous rappeler ce que Dieu, ce que Jésus a fait pour vous. Au verset 9, il est écrit, mais vous, vous êtes la race choisie. Deuxième phrase, il dit, il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Ce que je souligne ici, c'est le verbe appeler. Et il nous a appelé de l'obscurité ou des ténèbres à la lumière. Ça me fait penser à ce que Jésus-Christ a fait physiquement pour Lazare, mais ce qu'il a fait spirituellement pour chacun, chacune de ceux et celles qui ont choisi de croire en Jésus-Christ. Il avait dit à Lazare, qui était mort et dans le tombeau, depuis 4 jours au moins, qui sentait à cause de la décomposition de son corps, il lui a dit, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Donc, Christ appelle à sortir du tombeau. Il nous appelle hors du péché, hors des ténèbres, hors de la mort spirituelle, hors du vide intérieur. Sors. Il nous appelle à lui, qui est la vie véritable en personne, qui est la source de la vie, mais il l'est en personne. Il y a une destinée pour ceux qui refusent, qui décident de refuser d'obéir à la parole de Jésus-Christ, mais il y a un appel pour tous les êtres humains à sortir des ténèbres, à venir à lui, le bon berger, qui appelle. Et cette notion d'appel du verset 9 peut être corrélée à la mention « Approchez-vous du Seigneur ». On la voit dans David avait déjà, le roi David avait cette notion que Dieu dit « Approche-toi ». Donc Pierre, qui connaissait voilà, les psaumes, souvent fait des références implicites, nous on ne s'en rend pas forcément compte, mais il fait des références comme ça aux différents psaumes de David. Mais est-ce que ça vous rappelle éventuellement autre chose, un autre passage biblique, une autre histoire, cette notion de « approche-toi » ? Je vous laisse chercher, je sais qu'on n'est pas en étude biblique. À quoi ça vous fait penser ? C'est dans l'Ancien Testament. Approche-toi. Est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu, le roi des rois, seigneur des seigneurs, qui est au-dessus de tout nom, de toute dignité, de tout chef de guerre, celui qui est au-dessus des plus riches de ce monde, les dirigeants des multinationales, est-ce qu'on peut s'approcher de lui pensez ? Alors, il y a une histoire dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre d'Esther, pour ceux qui éventuellement avaient pensé à ça, au chapitre 4, versets 11 et 16. Le peuple juif est menacé d'extermination, ni plus ni moins. Et Esther est une reine juive. Le roi d'Assyrie ne sait pas encore que celle qu'il a choisie comme reine est juive. Et le cousin de cette reine, Mardoché, qui est un peu comme son oncle, mais ce n'est pas son oncle, va lui dire « Esther, tu as un rôle à jouer pour empêcher la destruction du peuple de Dieu. » Et donc dans Esther chapitre 4, versets 11 et 16, nous lisons. Donc c'est la réponse d'Esther à Mardoché. « Tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces de l'Empire, connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou femme, quiconque entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Cette personne doit mourir. Elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. En ce qui me concerne, voilà tout un mois que je n'ai pas été invitée à me rendre auprès du roi. » Au verset 16, comme Mardoché a prévenu Esther que garde-toi de penser que tu vas échapper parce que tu es près des personnes d'influence, Dieu trouvera une autre solution. Esther se décide de prendre ce risque de mort. Et elle dit donc au verset 16, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale de l'Empire. observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis, je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Encore dimanche dernier, Apocalypse chapitre 5, nous avons vu que Jésus-Christ, le roi de Juda, le lion de Juda, a été annoncé dès le temps de l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 49:10, de la façon suivante, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples, dont nous avons parlé pendant ce temps de louange, et que les peuples lui obéissent. Et là, Pierre nous dit « Approche-toi ». Et nous avons toujours besoin de méditer cela et de nous rendre compte autant que possible de combien c'est extraordinaire. Ce n'est pas banal d'avoir le droit de s'approcher de lui. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous puisse s'approcher comme ça d'un diplomate, d'un ambassadeur, d'un président et que sais-je. Ben, qu'importe. Et alors ? Parce que Dieu, lui, nous dit, il nous tend le sceptre et il nous dit, approche. Et tu auras la vie sauve parce que Jésus a fait ce qu'il faut. Il a accompli ce que la loi exigeait. Et vraiment, Pierre, il sait que nous devons nous souvenir de cela. Dans les temps d'épreuves, quand il y a du mépris, du rejet, des difficultés, souvenons-nous de cette grâce, de cette invitation que nous avons, cette carnet d'invitation que nous avons de la part du Très-Haut. Que tout le reste, vraiment, devienne fade. Perde ce poids, cette importance que ça veut avoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a plus de poids, plus de valeur, qui nous invite. Et encore une fois, Pierre nous dit « Approchez-vous de Dieu parce qu'il sait que c'est en Christ que se trouve le soutien, la force dont nous avons besoin. » Non seulement Pierre donne un avertissement aux humains, non seulement il nous dit « Approchez-vous car vous avez la chance, vous avez la chance d'avoir été appelé, d'avoir entendu cet appel. » Troisième et quatrième chose qu'il dit aux humains, c'est « Soyez unis et annoncez la bonne nouvelle. » On le voit au verset 5 et 9. Au verset 5 où il dit « Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels. » Et dans la version Louis II notamment, il est dit « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un sacerdoce. » Nous sommes des pierres vivantes, individuelles, mais le cœur de Dieu, ce n'est pas qu'on reste des individus qui adorent Dieu. Le désir du Père, c'est que ses enfants soient rassemblés, unis, qu'ils fassent bloc. Donc il nous dit, voilà, soyez unis. Aux chrétiens d'origine juive qui lisaient ce texte-là, et même, je peux vous dire, à ceux qui sont aujourd'hui en Israël notamment, qui ont laissé le judaïsme qui s'arrête à l'Ancien Testament, Il leur dit, ne regrettez pas l'ancienne alliance. En plus, on estime que cette lettre a été écrite après l'an 70, que le temple de Jérusalem avait été détruit. Mais c'était très difficile de renoncer à sa famille, à sa communauté et à tout ce que ça impliquait. Mais Pierre, par ce message où il nous appelle à plutôt entrer dans le projet de Dieu qui est d'édifier un temple spirituel et non plus fait de main d'homme, à offrir non plus des sacrifices animaux, mais des sacrifices spirituels, ce que nous savons que Dieu demande en lisant les évangiles, en lisant ce que Christ, ce que Jésus a dit et en lisant ce que ses apôtres nous ont dit, en offrant ces sacrifices spirituels, en formant ensemble un temple uni, pas où il y a des pierres chancelantes, des pierres qui s'entrechoquent, en étant unis et en ne regardant pas en arrière. Voilà, le Seigneur nous dit, c'est là que vous faites ma volonté, tenez bon. Ne retournez pas à votre propre façon individuelle de vivre. Ça a été dit à plusieurs reprises, il dira au chapitre 1, verset 18, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos ancêtres, mais aussi de notre propre vaine manière de vivre. Ne retournez pas en arrière. On n'est peut-être pas juif pour revenir au judaïsme, mais il nous dit, ne reviens pas en arrière. Il y a donc cet encouragement à l'unité, parce que c'est là que se trouve notre force. Une maison spirituelle ou un temple spirituel, un sacerdoce. Et au verset 9, je n'aurai pas le temps de le développer, mais il dit une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quatre appellations, adjectifs qui, tous ensemble, nous disent former un corps, un temple, parce que Dieu déteste la division. Il est un Dieu de réconciliation. Et ce n'est pas naturel, mais il nous demande de ne pas être naturel, mais de vraiment manifester que comme lui, il est pierre vivante, comme lui, il est précieux, vous aussi soyez. On a eu l'occasion de le méditer il y a plusieurs mois de cela. Le cœur de Dieu, c'est que nous soyons comme lui, que nous soyons comme Christ. Donc toute la notion de race élue, sacerdoce royal, c'est vraiment pour dire on n'est plus comme dans l'ancienne alliance où il y avait seulement la tribu de Lévi parmi tous les 12, une sur 12 qui pouvait s'approcher de Dieu. Et encore parmi cette tribu-là de Lévi, seulement ceux de la descendance d'Aaron qui pouvaient aller jusque dans le lieu saint. Tout cela, il dit, c'est fini en Jésus-Christ. On n'a plus besoin de faire partie d'une ethnie. Tous les peuples, et combien il y a ici de peuples d'origine malgache, d'origine indienne, d'origine camerounaise, congolaise, martiniquaise, guadeloupéenne, suisse, des gaulois, et j'en passe. Il nous dit, vous êtes tous appelés pour être des prêtres. L'exclusion ne se fait pas parce que Dieu a dit non, pas vous, elle se fait parce que les humains décident de s'auto-exclure. Enfin, le verset 9, je pense qu'il est important de souligner combien il nous parle de la valeur que nous avons. Là où, encore une fois, nous pouvons être rejetés. Et il disait à tous les chrétiens, qu'ils soient d'origine juive, qu'ils soient des prosélytes ou qui viennent des peuples païens qui n'aient jamais connu le judaïsme, votre valeur ne vient pas, on pourrait dire, de votre couleur de peau, elle ne vient pas du fait que vous soyez accepté par votre famille ou rejeté par votre famille, elle ne vient pas de vos diplômes, elle ne vient pas de votre métier, elle ne vient pas de vos connaissances plus ou moins prestigieuses. Elle ne vient pas de votre état de santé. Votre valeur vient de Christ. Et vraiment, si on s'observe bien, on doit souvent lutter contre la volonté de chercher sa valeur dans ces choses que je viens d'énumérer. Tous les êtres humains cherchent un appui pour considérer qu'ils ont de la valeur. Tous. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous le faites. Je viens de telle famille, je viens de tel peuple, j'ai tel diplôme, etc. Ah, mais je connais telle personne. Et on cherche à tirer de la valeur pour soi-même grâce à l'autre ou grâce à tel accomplissement. Et le Seigneur nous dit, rejette ces pensées charnelles. Rejette-les, ces vaines manières de penser. Parce que ta valeur ne vient pas de ces choses-là, ni de ces personnes. Ta valeur vient de ce que Christ t'a appelé et de ce que tu as accepté d'être uni à lui, de naître de nouveau, d'être uni à lui, d'être rendu semblable à lui. C'est lui qui te donne ta valeur. Nous devrions régulièrement proclamer ces choses, les proclamer, les répéter. C'est de là que devient notre dignité. Et quand l'ennemi essaie de nous mettre à terre, que ce soit dans les pays ou en Chine, en Corée, en Arabie Saoudite, en Inde, au Pakistan, etc., où les gens sont vraiment déconsidérés, placés comme des citoyens de seconde zone, en donnant les métiers les plus médiocres. Eux, comme nous, nous avons besoin de nous rappeler d'où vient notre valeur. Je terminerai en disant qu'il y a deux petits mots à la fin du verset 9, afin que tout cela pour que quoi ? Pour que vous ne gardiez pas cela pour vous. Nous sommes ce que nous sommes, non pas pour nous cajoler et aimer ce que nous sommes, rester entre nous, unis, mais afin que nous annoncions les vertus extraordinaires, les qualités extraordinaires de générosité, de miséricorde, de la puissance de la grâce de Dieu, les œuvres glorieuses de Jésus-Christ, tout cela, pour que nous l'annoncions à ceux qui, pour le moment, sont dans l'ignorance, pour le moment, décident de refuser d'écouter la parole de Dieu, afin qu'ils se détournent de cette destinée de mort éternelle. Donc, dans les temps d'épreuve, il ne s'agit pas de se replier sur soi, il ne s'agit pas de cultiver de l'animosité contre son ennemi, mais il s'agit au contraire de prier pour celui qu'on considère comme son ennemi, celui qui nous offense, celui qui nous irrite, etc. Celui qui commet des injustices à notre égard. Et il s'agit même de lui annoncer la bonne nouvelle, lui donner le trésor. Il y a des gens, ils refusent, hein, des chrétiens, qui réagissent de manière épidermique quand on leur dit ça. Donne ton trésor à ton ennemi. Mais c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, et c'est en cela que vous serez victorieux dans l'épreuve. Au verset 10, et vous voyez pourquoi j'ai plusieurs fois dit que je ne pourrais pas développer tel point, je ne pourrais pas développer tel point. Au verset 9 et 10, enfin, il est dit, il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Rapidement, cette notion-là qui nous appelle à nous rappeler d'où nous venons, ce que nous étions, c'est typique d'un leitmotiv que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui disait « Souviens-toi d'où tu es sorti. » Parce que Dieu ne voulait pas que son peuple soit orgueilleux, mais de se souvenir qu'il a été esclave, de se souvenir qu'il a été étranger, et ce que ça faisait d'être étranger et d'être esclave. Donc Dieu nous dit dans l'épreuve, souviens-toi d'où tu es venu, d'où Jésus t'a tiré, afin que toi aussi tu aies de la compassion, comme Dieu en a, pour ceux qui sont encore esclaves du péché, pour ceux qui sont encore dominés par l'ennemi, afin d'aller et annoncer la bonne nouvelle. En conclusion, vous voyez que ces quelques versets de l'apôtre Pierre sont extrêmement riches. Il y a bien des passages, bien des notions qu'on n'a pas pu développer. Mais nous avons vu en tout cas combien Jésus est la pierre angulaire. Nous devons chercher et trouver notre appui en lui pour nous relever et tenir bon. Qu'il soit le centre de nos vies, de nos pensées, de nos actes, de nos paroles. Il a été rejeté, humilié, maltraité. Il sait comment nous secourir, nous aider à faire face, nous aussi, face à tout défi, face à toute épreuve, face à tout mépris. Jésus nous appelle à sortir des ténèbres, du péché, de la mort, du vide intérieur, pour vivre dans la puissance de sa grâce infinie, éclairée par son admirable lumière. Il nous appelle à rejeter toute hésitation, toute culpabilité et nous approcher de lui. Dieu veut que l'on soit prêt de lui. Il nous tend le sceptre royal. Et il nous dit ensuite, ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas à ce que tu as délaissé. Il nous encourage à être unis, parce que c'est cette solidarité dans la prière, dans la méditation ensemble de la parole de Dieu que nous tiendrons bon. Et il nous dit, souviens-toi de ton identité en Christ, parce que c'est ça aussi qui t'aidera à tenir bon, à te relever. Fais mémoire d'où Dieu t'a sorti. Souviens-toi de la richesse qu'il te donne et aie de l'amour, de la compassion pour ceux qui sont encore hors de la maison de Dieu. Je vous invite à prier maintenant. Père céleste, nous te louons parce que tu es ce Dieu qui dépasse notre entendement. Par ta bonté, par ta générosité, par ta grâce, ta miséricorde, ton amour qui se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas quelque chose de vieilli, ce n'est pas quelque chose de rassis. C'est quelque chose de frais, de nouveau, chaque jour. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes d'être rafraîchis, d'être renouvelés, en prenant des temps collectivement et personnellement, tout près de toi, afin d'être rafraîchis, afin d'être émerveillés, afin d'être fortifiés, quelles que soient les circonstances. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu as fait de nous, Seigneur. Et nous voulons te réjouir en nous sanctifiant, en restant et en demeurant et en restant unis et en nous édifiant constamment les uns les autres et en allant ensemble apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans les ténèbres, dans la mort. Que ton nom soit glorifié, Jésus, qu'ils puissent entendre que tu les appelles eux aussi, que tu veux que eux aussi soient proches de toi, que eux aussi deviennent des pierres vivantes qui portent ton nom, Seigneur Jésus, afin de régner avec toi sur ton trône, comme tu règnes avec le Père céleste. Amen.